Les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, c'est notre sujet jusqu'à 13h45. Avec nous, l'économiste Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRI. Bonjour Sylvie Matelli.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le choc énergétique, la crise énergétique de 2022 est comparable à celle de 1973, dit Bruno Le Maire ce matin. Êtes-vous de cet avis ?
Alors, je dirais que pour l'instant, nous n'avons rien vu. Et sans vouloir affoler vos auditeurs, c'est vrai que pour l'instant, on a pas sanctionné, hormis les États-Unis qui ont annoncé hier, mais que ça n'aura, ça a plus l'effet d'un symbole. Mais pour l'instant, nous n'avons pas stoppé, nous n'avons pas freiné nos approvisionnements en gaz et en pétrole. Il est très clair que si nous le faisons, ça aura des conséquences désastreuses à la fois sur ces marchés des matières premières, mais donc sur le prix du gaz et du pétrole. Ouais. Et ce sera effectivement très comparable à 1973 et à double titre aussi, parce qu'on était déjà dans une situation d'inflation qui rappelait étrangement les années 60.
Alors voilà, question à l'économiste. Bruno Le Maire a évoqué ce matin la stagflation. De quoi parle-t-on quand on parle de stagflation, Sylvie Matelli ?
La stagflation, c'est la situation économique que nous avons connue justement dans les années 70, où se combine en même temps de l'inflation et un ralentissement de la croissance économique, ce qui entraîne du chômage. Normalement, pour être vraiment allé jusqu'au bout, normalement, quand on a de l'inflation, on a de la croissance économique. C'est-à-dire, il y a de l'inflation parce que la demande est dynamique, ça entraîne une augmentation des prix, puisque la demande évolue plus, est plus dynamique que l'offre, mais finalement, les entreprises sont obligées d'embaucher, ça c'était la situation il y a quelques mois, parce que pour répondre à cette forte croissance économique. Et finalement, l'inflation, c'est le distinguo entre le moment où la demande s'exprime et le moment où l'offre peut répondre à cette demande. Dans le cas de la stagflation, c'est l'inverse. C'est qu'à la fois les prix augmentent, mais les prix augmentent de manière exogène, en provenance des marchés internationaux, et ils cassent la croissance en cassant la demande.
Nous n'en sommes qu'au début, disiez-vous en quelque sorte au tout début de cet entretien. Alors, ça arrive, Joe Biden annonce un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe. Quelles peuvent être les conséquences de cette annonce hier ?
Les conséquences de cette annonce, on les voit déjà, c'est l'augmentation des prix du pétrole et du gaz sur les marchés. Et avec les prix des pétroles et du gaz, c'est l'augmentation des prix de toutes les matières premières. Dans un contexte, encore une fois, qui était déjà haussier. Donc là, on a des matières premières, et en particulier du pétrole et du gaz, qui atteignent des sommets, qui battent des records de jour en jour. Et encore, la semaine dernière, on était à 95, 99, on a dépassé la barre des 100, on s'est dit, où est-ce que ça va s'arrêter ? Aujourd'hui, on est à 130 et on ne sait pas où ça va s'arrêter.
Oui, je vous pose pas la question de jusqu'où ça va aller. C'est impossible de répondre aujourd'hui à cette question.
C'est totalement impossible de répondre à cette question, avec peut-être, pour rassurer vos auditeurs, des mouvements qui sont extrêmement brutaux à court terme, parce que il faut du temps pour s'adapter à cette situation. En gros, le temps nécessaire, c'est le temps pour remplacer l'offre de pétrole et de gaz russe. Mais on peut imaginer qu'au fur et à mesure que le temps va passer, après quelques mois, probablement plus quelques années si la crise dure autant, les choses vont se lisser et les prix vont se modérer un petit peu.
La réponse, c'est l'indépendance totale vis-à-vis du gaz et du pétrole russe, dit Bruno Le Maire. Réunion des Européens demain à Versailles. Un, la France. Deux, l'Union Européenne. Peuvent-elles se passer du gaz et du pétrole russe? Et à quelle échéance?
La réponse est très différente suivant les pays auxquels on s'adresse. Dans le cas de la France, on est bien moins dépendant du gaz russe. Donc on peut imaginer...
En chiffres ronds, la France est dépendante à 20% du gaz russe et à 10% du pétrole russe. Hein.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et donc on peut imaginer qu'en quelques mois, qu'on puisse anticiper l'hiver prochain et que les conséquences... Alors il y aura forcément des conséquences, on sera jamais totalement indépendant l'an prochain, mais on peut imaginer lisser par différentes mesures, lisser cette dépendance en réduisant par exemple le chauffage, en faisant des économies de consommation, ce sont des choses pas faciles, en amplifiant la production d'électricité via les centrales nucléaires, en poussant l'installation de pompes à chaleur et autres. Donc on peut prendre un certain nombre de mesures qui vont nous permettre relativement rapidement de dépasser, de réduire les conséquences de cette dépendance. C'est pas du tout le cas d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie.
Donc, à venir, des tensions entre pays de l'Union Européenne, inévitablement pour l'instant l'atout de l'Union Européenne depuis le début de la crise, c'est une réelle unité. Ça risque de se fracturer peut-être dès demain.
Alors, ça risque très clairement de se fracturer, surtout sur la décision de sanctionner, en fait, sur le pétrole et le gaz. On pourrait aussi, et on a envie, en ces temps compliqués, d'être optimiste, on pourrait imaginer aussi que ça peut permettre de trouver des compromis. Rappelez-vous, on est en négociation sur la taxonomie verte, pour savoir quelles énergies vont être autorisées et financées à l'avenir. On se disputait avec les Allemands sur le nucléaire et le gaz. Peut-être que les Allemands vont assouplir leur position sur le nucléaire. Je rêve peut-être un petit peu, mais c'est jamais exclu.
Hein. Le plus négatif n'est jamais certain. Question d'Arnaud sur l'appli. Pourquoi l'OPEP n'augmente pas sa production, ce qui ferait baisser le prix du baril?
L'OPEP,
Sylvie Matelli.
Oui, tout à fait. L'OPEP s'y est refusée la semaine dernière. Alors peut-être que dans les semaines qui viennent, elle changera d'avis. Et s'y est refusée parce qu'au fond, des prix qui augmentent, c'est très 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 pratique pour les pays exportateurs de pétrole. Ça leur permet de gagner beaucoup d'argent en vendant moins de quantité et donc de garder des réserves en réalité. Alors il y a une inconnue qui n'est pas rentrée dans l'équation de l'OPEP, c'est la perspective de la transition énergétique. Si on voit très rapidement les pays consommateurs, gros consommateurs d'énergie investir dans le renouvelable et finalement essayer autant que faire se peut de se passer des énergies fossiles, il est clair que les pays de l'OPEP auront peut-être intérêt à écouler très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'envisagent aujourd'hui, leur stock.
Et est-ce qu'il y a des pressions possibles de pays occidentaux, des États-Unis sur l'OPEP pour que l'OPEP accroisse sa production ?
On peut imaginer qu'elles sont déjà exercées, ces pressions, bien évidemment. Depuis quelques années, ces pressions ne suffisent pas à inciter l'OPEP à augmenter sa production. Ils feront très certainement un geste, mais qui restera assez symbolique dans les semaines qui viennent.
Question de Marc au standard pour vous, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Oui, bonjour Marc-Denis. Je vous appelais pour savoir quelle était la position de Total par rapport, par exemple, à Shell, qui a fermé toutes ses stations de distribution en Russie.
Merci pour cette question, Marc. Sylvie Matelli.
Donc sur la position de Total. Si j'ai bien compris, position de Total en Russie. Alors la position de Total n'a pas varié en Russie. Total se maintient pour l'instant en Russie, contrairement à certains de ses concurrents. Et la justification qui en est donnée, c'est que les investissements russes de Total sont des investissements d'avenir. Vous savez que Total est engagé dans une refonte complète de cette entreprise qui a pour ambition de quasiment ne plus vendre une goutte de pétrole dans quelques années. Et ça vient très très vite. Et la Russie et les investissements en Russie participaient de cette stratégie. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette stratégie sera tenable ? Parce qu'on s'aperçoit finalement, et ça c'est très intéressant pour les entreprises, ce qui est en train de se passer, on s'aperçoit que c'est de moins en moins tenable pour des entreprises que de rester dans des zones de conflit ou dans des pays non fréquentables. Et c'est pour cela qu'on voit les entreprises qui se retirent se multiplier. Pour l'instant, c'est pas le choix de Total. Ils avaient fait le même choix en Birmanie il y a quelques mois pour se retirer finalement 6 mois plus tard.
Ils ont changé d'avis récemment. En effet, quelles sont les grandes entreprises françaises très exposées, très impliquées en Russie ? Société Générale, Auchan, Renault ?
Oui, vous avez un certain nombre d'entreprises présentes en Russie et vous les avez citées, hein, Société Générale, Auchan et Renault. Alors, à double titre, vous avez des entreprises, des banques comme la Société Générale qui possèdent des entités à l'étranger en Russie. Et là, bien évidemment, se retirer est compliqué puisque vous n'allez pas rapatrier cette institution. Vous avez des entreprises qui ont des filiales. Ou de la même manière, les points de vente aussi pour Auchan, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous fermez, c'est ce qu'a fait Ikea, vous fermez vos magasins ou ce qu'a fait McDonald's. Vous avez des entreprises qui ont par contre des filiales à l'étranger, dont en Russie, et qui peuvent imaginer rapatrier une partie de leur production sur un autre territoire.
Question de Sylvie, pour vous, Sylvie Matelli, si l'Union européenne arrête de se fournir auprès des Russes, est-ce que la Russie va se tourner vers la Chine ? C'est déjà le cas, j'imagine.
C'est déjà le cas. C'est une stratégie qui a été mise en œuvre après 2014 et les sanctions lorsque la Russie envahit la Crimée. Simplement, faut pas se leurrer, c'est pas si évident que ça. Et pour au moins deux raisons. La première raison, c'est le fait que on compense pas des flux commerciaux par d'autres flux commerciaux. La Russie achète en Europe des produits qu'elle ne trouvera probablement pas ou pas en totalité en Chine. Il y a des infrastructures aussi nécessaires. On a beaucoup parlé du gaz. gaz, mais les gazoducs qui vont vers l'Europe ne sont pas connectés aux gazoducs qui vont vers la Chine, donc on peut pas instantanément passer l'approvisionnement d'un côté ou de l'autre. Et puis côté Chine, et ça c'est la deuxième raison, côté Chine, il y a un intérêt certain dans les relations commerciales qu'a nouées la Chine avec le reste du monde, qu'elle n'a peut-être pas envie de remettre en péril pour aller soutenir son allié russe. Juste un petit exemple, la Chine achète une partie de son gaz et de son pétrole à l'Iran ou aux Émirats Arabes Unis, elle n'a peut-être pas envie de se priver de l'influence que lui accordent ces contrats.
L'agence de notation Fitch dit ces dernières heures que la Russie est au bord de la cessation de paiement. Cela signifie quoi et ça aurait quelles conséquences? Et j'ajoute une troisième question, c'est la conséquence directe des sanctions?
Oui, c'est une conséquence directe des sanctions et ça signifie quoi? Alors quand on pense cessation de paiement, on pense souvent à faillite, oui, et donc plus d'argent. En fait, c'est pas du tout ça, ou c'est indirectement ça. C'est-à-dire on a bloqué tous les avoirs de la banque centrale, les avoirs en devises, et donc aujourd'hui la banque centrale russe ou les entreprises russes ou certaines banques russes bloquées par les sanctions ne peuvent plus s'approvisionner en euros ou en dollars et ne peuvent plus échanger des roubles contre des euros et des dollars, donc ne peuvent plus payer. Et à partir du moment où vous ne pouvez plus payer, vous êtes en cessation de paiement.
Et conséquence d'une cessation de paiement russe, ça signifierait quoi ça?
Alors, ça peut aller de faillite en cascade, oui, voire d'une incapacité, soit des entreprises, soit de la banque centrale, de rembourser une partie des crédits qu'ils ont dans leur bagage. Mais ça peut aussi aller jusqu'au risque systémique. À la Lehman Brothers, ça a été évoqué la semaine dernière par un économiste américain, c'est-à-dire au fond une panique sur les marchés, parce que cessation de paiement côté Russie et une crise du type la crise de 2008.
On revient au pétrole avec cette autre question. Qu'est-ce qui explique que le prix à la pompe de l'essence soit aussi cher alors que le prix du baril est au même niveau qu'il y a 12 ans? Effectivement, on atteint, notamment dans des stations parisiennes, voire dépasse les 2 euros. Pourquoi ça alors qu'il y a 12 ans, même prix du baril et pas même prix de l'essence?
Oui, les taxes ont fortement augmenté depuis 5-6 ans sur le pétrole. Et c'est ce qui explique en grande partie l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Ce qui signifie aussi, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle, qu'au fond, les pouvoirs publics ont des marges de manœuvre, puisqu'une partie de l'augmentation du prix est maîtrisée par eux-mêmes, en fait.
Parmi les conséquences sur les métaux et matières premières, augmentation du nickel, dont la cotation a été suspendue hier, et ça a des conséquences très importantes sur la fabrication de voitures électriques. On voit que là aussi, on parle de transition énergétique. La fabrication de voitures électriques risque d'être bloquée un peu comme un nouvel effet semi-conducteur.
Complètement. Et c'est assez amusant parce que, enfin amusant, excusez-moi le terme, il n'était pas du tout approprié, mais
notable.
Il est notable ou intéressant de voir combien nous sommes en train de vivre finalement la première guerre dans un contexte de mondialisation, dans un monde globalisé. Et on avait déjà vu les premiers effets avec la pandémie de Covid et ça se confirme avec la guerre. Au fond, et en plus on s'engage dans une transition énergétique qui nous oblige à renouveler complètement, à repenser complètement notre système, alors même qu'on est dépendant de la terre entière. Oui, c'est une vraie nouveauté et c'est quelque chose qui nous interroge sur nos choix stratégiques et sur la question de la souveraineté, bien évidemment.
À propos de choix stratégiques, Elisa nous demande si la guerre aura des conséquences sur l'approvisionnement en uranium pour l'Europe, pour les centrales nucléaires.
Alors, c'est fort possible, c'est un approvisionnement qui est bien moins sensible. Oui. On a besoin de bien moins d'uranium pour faire de l'électricité qu'on a besoin de gaz, de charbon ou d'autres matières premières.
Merci beaucoup Sylvie Matelli d'être venue dans les studios de France Inter.